Paul Bourget, Le Brutus, chapitre 1. Il y a de cela un peu plus de 10 années. À Paris, c'est un demi-siècle. Qui se rappelle, sinon quelques professionnels de l'anecdote, causeurs de clubs ou vieilles douairières, habitués à rafraîchir sans cesse leurs souvenirs en les racontant? Qui se rappelle, dis-je, l'extraordinaire émoi répandu dans la société par la soudaine nouvelle que les Guenneville plaidaient en séparation? Le naufrage de ce ménage élégant passionna 15 jours durant tous les mondes, et les Guenneville touchaient en effet à tous les mondes. Au faubourg Saint-Germain et à son gratin, par la femme. Elle n'était rien moins qu'une Candale, de la branche cadette et pauvre, mais c'était de quoi soulever une vague énorme de cousinage entre la rue Saint-Guillaume et l'esplanade des Invalides. Au clan du sport par le mari, ancien officier, membre de deux cercles très recherchés, commissaire des courses à Auteuil. Au clan du chic par l'un et par l'autre. Elle, 26 ans, une entente supérieure de la toilette, et belle, avec l'éclat de son teint, ses cheveux blonds, sa taille de déesse, l'une de ces beautés voyantes pour laquelle les Anglais ont créé le mot intraduisible de striking. Lui, 38 ans, très joli homme encore, de l'allure, un je ne sais quoi de frappant aussi dans sa virile physionomie, d'une expression aisément dure et sauvage. C'était de quoi dérouter toutes les idées reçues sur l'atavisme, car le père de Théodore de Guenneville s'était appelé Fortier, simplement, durant tout le temps de l'Empire, époque où il gagnait, dans de savantes combinaisons de terrain, les 200 000 francs de rente qu'il a laissés à son fils. Cette grosse fortune a permis aux spéculateurs de se titrer sur ses vieux jours sans trop de ridicule. Il a plus ou moins justement argué d'une parenté avec d'authentiques Guenneville, en noblisse même vers 1700, moyennant finance de 1250 livres. Cette gentilhommerie par à peu près n'a pas été si sotte. Grâce à la savonnette à vilain, cette alliance avec les Candales n'a pas trop fait crier. Mais cette origine représente encore des attaches conservées avec une quatrième clique, celle des gens d'affaires qui font les gens du monde. Si vous joignez à tous ces éléments de scandale cet autre, la curiosité, vous comprendrez quel déchaînement de langues féminines et masculines la séparation Guenneville a dû provoquer. Jusqu'ici, le jeune ménage avait passé pour marcher parfaitement. Jamais on n'avait parlé ni d'elle ni de lui, et ils plaidaient l'un contre l'autre. Pourquoi ? On ne pouvait, à l'époque, entrer dans un salon, dans une loge de théâtre, dans un cercle, sans entendre quelques phrases du type de celle-ci, prononcer avec ses clignements d'yeux, ses inflexions de voix, cet air d'importance qui décèle l'initié, l'homme ou la femme, au courant des vrais dessous du potin du jour. « Vous savez la nouvelle ? Non ? Eh bien, Marie de Guenneville se sépare. Pauvre petite femme, si jolie, si fine, et avec cela irréprochable. Il paraît que cette brute de Marie l'a trompée depuis le commencement de son mariage. » Vous en seriez-vous jamais douté ? Moi pas. Enfin, elle a tout appris. Il faut que tous les torts soient à lui. Il a quitté l'hôtel. C'est du moins un procédé correct. Mais s'il a espéré l'amadouer, il ne la connaît pas. Enfin, ils n'ont pas d'enfant. Vous savez la nouvelle ? Guenneville lâche sa femme. Il aurait découvert un paquet. Oui, oui, on parle du petit Barnac. Vous savez bien, Melchior de Barnac, le blond. Mais il paraît qu'ils étaient à deux de jeu et que Guenneville courait de son côté. Marie est tellement armée qu'il va être obligé de filer doux. On raconte aussi qu'il a mangé, mangé. Il jouait dans tous les tripots, sans compter la bourse. Et puis, il y a ses demoiselles. Qui aurait cru cela tout de même, et d'elle et de lui ? Mais elle, d'abord, ce n'est pas sûr, et puisqu'il a traité de cette façon, franchement, elle a toutes les excuses. « Vous savez la nouvelle ? Les Guenneville se séparent. Ça ne pouvait pas finir autrement. Une Candale n'épouse pas un Fortier. Il paraît qu'il était infâme dans l'intimité. Il la battait. Mais oui, il buvait. Tous ces gaillards qui n'ouvrent pas la bouche dans le monde, 9 fois sur 10, croyez-moi, ce sont des pochards. Je sais, le mot n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie. » Il dit bien ce qu'il veut dire, surtout dans le cas. Le pochard, c'est l'ivrogne qui se bat, qui se poche. Une candale, se pocher avec son mari. Vous voyez cela d'ici, vous ? Elle l'a mise à la porte et il s'y est laissé mettre. Elle garde l'hôtel. Voilà qui juge l'affaire, n'est-il pas vrai ? De tous ces propos et d'autres semblables qu'il serait fastidieux de rapporter avec leurs implacables, il paraît, et leurs terribles, mais oui, une évidence résultait. Le monde donnait tort à Gainville. Il avait une mauvaise presse, comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui. Ces courants d'opinion mondaine se manœuvrent d'ordinaire à volonté. Ils prouvent le plus souvent en faveur de celui contre lequel ils se déchaînent. C'est qu'il n'a pas su ou n'a pas daigné les diriger. On sait cela, et, le sachant, on subit soi-même l'influence de ces papotages tendancieux, instinctivement, par un phénomène de suggestion presque invincible. Je ne connaissais pas, pour ma part, les Gainville, que d'une connaissance superficielle, pour avoir dîné avec eux 5 ou 6 fois. Mon impression personnelle avait été plutôt défavorable à l'égard de la jeune femme et sympathique à l'égard du mari. Elle m'avait donné l'idée d'une de ces physiologies très brutales sous des dehors de délicatesse, comme en ont certaines grandes dames dans les veines desquelles sommeille une hérédité de chasseurs et de soudards. Ces créatures possèdent des nerfs d'acier sous une peau couleur de pétales de rose et des duretés de tyrans asiatiques au service de leur fantaisie. Théodore de Gainville n'avait plus, au contraire, par une dignité dans sa politesse un peu froide, où j'avais cru diagnostiquer un des traits les plus intéressants et les plus méconnus du bourgeois qui a monté d'une classe, quand il mérite vraiment cette ascension, un respect singulier de sa propre personne, la capacité de grand parti pris vis-à-vis de soi-même ou des autres, et, pour tout dire, le besoin de sentir noblement que tant de vrais nobles n'éprouvent guère. Antipathie et sympathie ne prévalurent pas contre la suggestion de la médisance. Je me revois à l'époque vers laquelle ces réflexions me reportent, c'est-à-dire vers le moment où le bavardage des malveillants autour de cet incident conjugal battait son plein, entrant dans un cercle du boulevard dont j'étais membre, pour le plus grand dame de mon portefeuille, tant on y jouait cher. Je n'y étais plus retourné depuis quelques mois à la suite d'une culotte un peu forte. J'arrive dans la salle du baccarat. Au milieu des pontes se tenait, taillant à banque ouverte, le chapeau un peu en arrière, un cigare au coin de la bouche, un bouquet à la boutonnière de son frac, dans une de ces tenues de fêtard à gilet blanc qui soulignent encore l'ignominie du geste, le héros de toutes ces parleries, Théodore de Gainville lui-même, en chair et en os. La tension rogue de son visage dénonçait l'homme décidé à braver les camps, dira-t-on, qui a jeté le masque et qui s'amuse à sa guise. Il avait auprès de lui sur un plateau un flacon de whisky avec un siphon d'eau de Seltz. De temps à autre, entre 2 tailles de cartes, il préparait et sifflait un verre de cet affreux mélange. Les billets de banque et les pièces d'or s'amoncelaient devant lui, justifiant l'antique proverbe sur la chance des ivrognes. Tous les Parisiens qui étaient là, occupés, les uns à jouer, les autres à regarder, savaient son histoire. Il paraissait l'avoir oubliée, comme lui-même, et, de fait, toute partie de pur hasard, poussée avec une certaine verve, comporte un intérêt presque animal qui commença de m'hypnotiser moi-même. Je fus réveillé de cette contemplation stupide devant les allées et venues des 8 et des 9, des 5 et des bûches, par une main posée sur mon épaule, celle d'un de mes camarades d'alors, aujourd'hui mort comme tant d'autres. Il s'appelait Arthur Langlois et avait été avec moi au collège. Nous nous étions retrouvés, après nous être perdus de vue, aussi familiers que si nous n'eussions jamais cessé de sodaliser. Ce mot n'est pas français et il mériterait de l'être à un tout autre titre que cet ignoble vocable de pochard dont je rappelais la grossière origine. Le sodalice, chez les Latins, ce n'était pas l'ami, c'était le compagnon avec qui on se plaît, le convive près de qui l'on préfère souper, le causeur qui vous fait bavarder le plus volontiers. J'aimais dans Arthur son goût de regarder et de comprendre la vie, les caractères, les sentiments. Peut-être, s'il avait eu l'existence moins facile, ce don d'y voir clair dans ce qui est, comme disait Bayle, se serait-il transformé chez Langlois en un talent d'écrire. Pour l'instant, ce délicat garçon au teint trop pâle, aux yeux bleus, trop creusés, aux épaules aiguës, promis à la maladie de poitrine, se contentait de dépenser son reste de jeunesse dans des aventures qui n'étaient pas toujours dignes de sa finesse. Noctambule invétéré, malgré la toux qui le secouait déjà, il venait d'entrer dans ce tripot avec l'intention bien arrêtée de tenter, lui aussi, la chance et de se procurer la petite secousse nerveuse que le jeu dispense à ses dévots. Et puis, ma rencontre et celle de Théodore de Guenneville allaient suffire pour l'en distraire. Une anecdote à raconter, un problème de nature humaine à poser, c'en était assez pour que le viveur cédât en lui la place au conversationniste. Ah, comme on est las, parfois, de survivre lorsqu'on songe à tel ou tel disparu et qu'on entend leur voix, qu'on retrouve leur regard, leurs gestes, leur façon de penser et de sentir. Et puis, rien. « Tu regardais jouer Guenneville, me dit-il en me prenant par le bras et m'entraînant à l'écart sur un divan où nous nous affalâmes dans une solitude aussi complète, à quelques pas de cette table de baccarat, que si nous eussions été en tête-à-tête dans le fumoir de Langlois ou dans mon cabinet de travail. Il a de l'estomac, n'est-ce pas ? Et surtout du toupet, lui répondis-je. Quand il a ce procès avec sa charmante femme, tenir cette banque en public et s'alcooliser comme il le fait, mais c'est donner des verges pour se fouetter. Que l'avocat de sa femme raconte devant qui de droit des séances de tirage à cinq avec accompagnement de whisky and soda, comme celle de ce soir, et tu vois d'ici les considérants de l'arrêt. Et il n'y a pas que le tribunal, il y a l'opinion. Mais c'est tout ce qu'il désire, s'écria Langlois en haussant les épaules. Tu n'as pas vu cela, toi, l'observateur par métier ? Je ne te fais pas mon compliment. Il n'y a rien d'étonnant. Tu as écouté parler le monde sans prendre garde que tous les Candales et toute la tribu apparentée aux Candales avaient donné le « là ». Veux-tu que je te dise ce que c'est que Théodore de Guenneville ? C'est un Brutus. Un Brutus, répétai-je, sans penser à m'offenser du ton légèrement insolent sur lequel mon ami me faisait la leçon. C'est le charme des vieilles camarades d'enfance qu'elles ne laissent plus de place à l'amour-propre. D'ailleurs, l'étrangeté de ce rappel classique à propos d'une aventure parisienne d'un ordre si banal m'interloquait, je l'avoue. « J'appelle des Brutus, répondit-il, tous les personnages, et il y en a beaucoup, qui s'amusent à jouer un rôle de grotesque ou de vicieux pour se donner une espèce d'alibi moral, si je peux dire. » Exemple est un Brutus, le mari trompé, désespéré de l'être et qui affecte d'énumérer, cyniquement, les trahisons de sa femme, comme celui-là qui s'appelait lui-même le premier Sganarelle de France. Est un Brutus, le paysan parvenu, que les hasards ont porté à une situation énorme, ministre, général, archevêque, nous en avons vu, et qui joue à l'homme frus, qui s'étale complaisamment dans ses défauts en les outrant, faute de pouvoir s'en corriger. Est un Brutus ? Je comprends, l'interrompis-je. Un Brutus est le comédien de soi-même. Pas tout à fait, reprit Arthur, car ce Brutus-ci, je veux parler de Guenneville, n'est ni un joueur ni un ivrogne. Il y a des Brutus qui changent leur propre caractère. Il y en a qui le déguisent. Leur trait commun est qu'ils se font tous une silhouette ou ridicule ou odieuse pour devancer l'épigramme ou dérouter l'observation. Tu viens de voir Guenneville donner raison, par son attitude, à ceux qui ont pris parti contre lui dans ses affaires de ménage. Maintenant, écoute cette histoire. Voici 2 ans, j'avais été présenté à Madame de Guenneville. Je ne sais pourquoi, elle est très gracieuse pour ton serviteur et m'invite à venir la voir. J'y vais une fois, 2 fois, 3 fois, sans penser à lui faire la cour, un peu par désœuvrement comme il arrive, beaucoup parce qu'elle était l'amie d'une autre personne, absente de Paris en ce moment-là, et que je n'avais guère l'occasion de rencontrer. Tu m'as compris. À chacune de ces 3 visites, plus rapprochées, je l'avoue, que ne comportaient les simples convenances, je me heurte à Guenneville, tantôt à la porte, tantôt sur l'escalier. À une 4e, le hasard veut qu'il y soit encore, et dans le petit salon de sa femme, ce jour-là. Il nous laisse seuls aussitôt, comme il convient à un mari bien élevé. En sortant, je le trouve sur le palier, qui me dit « Voulez-vous m'accorder quelques instants d'entretien, mon cher Langlois ?»« Bon, pensais-je, il est jaloux, il tombe à pic. » Je l'accompagne dans son fumoir. Quand nous fûmes en tête à tête, il commença. « Voici 4 fois que vous venez voir Madame de Guéneville en 10 jours. Ne protestez pas, insista-t-il sur un geste que je ne pus retenir. Et laissez-moi parler. Ne me prenez ni pour un mari aveugle, ni pour un mari jaloux. Je ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai mes idées à moi sur le devoir d'un galant homme dans le mariage. Il ne doit être ni une dupe, ni un tyran. » Je me suis donné ma parole, quand je me suis mariée, que si jamais ma femme aimait quelqu'un, je m'effacerai, mais en lui disant à ce quelqu'un. Elle vous aime et vous l'aimez, je m'en vais. Seulement, puisque vous me la prenez, vous la garderez. Oui, je m'en vais, pour revenir si un jour vous l'abandonnez, et alors il ne fera pas bon pour vous. Ce discours, mon cher Langlois, je l'ai tenu à 2 de mes amis déjà, qui, comme vous, paraissait s'intéresser à Madame de Guéneville et dont je croyais, comme vous, qu'il pouvait l'intéresser. Ils ont senti que je ne plaisantais pas. Sans doute, cet intérêt n'était pas bien sérieux, car ils n'ont plus reparu aussi souvent. Ai-je besoin d'ajouter que ma maison leur était restée ouverte, comme elle vous reste ouverte? Vous ne m'en voulez pas de ma franchise et nous restons bons amis, n'est-ce pas? Et tu as écouté jusqu'au bout cette étonnante déclaration, interrogeai-je. Tu l'aurais écouté comme moi, répliqua-t-il, parce que tu aurais senti, en effet, que tu avais devant toi un homme qui te parlait avec le cœur de son cœur, la volonté de sa volonté. Et si je pouvais te rendre son accent et son regard, tu en conclurais ce que j'en conclus, qu'il a tenu le même discours à un 4e soupirant, au petit Barsac, par exemple. Parfaitement. Et que le petit Barsac a passé outre et qu'il s'est fait aimer de Marie de Guéneville. Parfaitement. Et que le mari fait le joueur et l'ivrogne pour que tous les torts de la rupture retombent sur lui. Tu crois cela possible? Je ne le crois pas, répondit Langlois, j'en suis sûr. Mais puisque tu es averti, maintenant, ouvre les yeux. Tu verras un jour si j'ai eu raison.